Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée AgriCampus de Laval.
Salut Martin, connais-tu ce son et surtout qui l'a composé ?
Ah mais oui, on était dans sa ville la semaine dernière à Bonn. On était d'ailleurs devant sa maison, c'est Beethoven.
Mais c'est complètement dingue, le mec était sourd et il a réussi à écrire des symphonies complètes qui ont cartonné. C'est du génie. Ici, c'est la 7e symphonie qu'il a composée en 1813.
Mais c'est quoi en fait être un génie ? Comment on fait ?
Eh bien, ça tombe bien, Martin. On a toute une équipe qui a travaillé sur la question « Sommes-nous vraiment intelligents ?»
Toute la classe de première Stavune du lycée AgriCampus de Laval nous a concocté des chroniques, des reportages, billets d'humeur et j'en passe. On démarre ?
On commence tout de suite avec Antoine et Méline qui vont nous expliquer qu'il existe plusieurs formes d'intelligence.
Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler des différentes formes d'intelligence. On parle souvent qu'être intelligent c'est juste être bon en maths ou en logique, mais en réalité il existe plein de façons d'être intelligent. Pour commencer, l'intelligence c'est une faculté de comprendre les choses plus simplement et de s'adapter plus facilement en toutes circonstances.
Chacun a ses talents, certains sont doués avec les mots, d'autres avec la musique, le sport, la nature ou encore tout type de relations. Il existe de multiples formes d'intelligence, comme par exemple l'intelligence humaine. Pendant longtemps, on a cru que l'homme était le seul à avoir la capacité d'être intelligent, étant donné qu'il a inventé beaucoup de nouvelles choses, comme l'agriculture, l'imprimerie, etc.
L'intelligence animale, quant à elle, après différentes expériences, où l'on a découvert que l'animal, lui aussi, avait une manière de penser, réfléchir et d'agir, comme cela vous sera présenté dans la suite de l'émission.
L'intelligence végétale. Oui, contrairement à ce que l'on peut croire, les végétaux possèdent eux aussi une forme d'intelligence. Comme nous ne sommes pas les plus calés sur le sujet, nous découvrirons plus d'informations sur cette forme d'intelligence dans quelques minutes.
Pour terminer, il y a aussi l'intelligence artificielle, qui aujourd'hui va bientôt devancer toutes les formes d'intelligence. On pourra se questionner sur le fait que l'intelligence humaine ne soit pas dépassée.
Dans cette émission, on va découvrir ensemble plus en détail ces multiples formes d'intelligence et comment elles nous rendent uniques.
C'est parti.
Merci Antoine et Méline.
On va maintenant découvrir les actualités sur le thème du jour avec le Flash Info de Louane et Hugo.
Bonjour, le journal sur notre radio avec Hugo Desplanques. Bonjour Hugo.
Bonjour Louane, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Aujourd'hui notamment marqué par le salon du mobile de Barcelone entre en course à l'IA et tensions géopolitiques. La course à l'innovation va-t-elle effacer les tensions géopolitiques dans le secteur de la tech ? Séduite par les promesses de l'intelligence artificielle, l'industrie des télécoms a affiché son optimisme lundi au salon du mobile de Barcelone, malgré quelques signes de crispation. Dans l'actualité également, les animaux sont-ils intelligents ? Ce que nous apprend la science. Longtemps sous-estimée, l'intelligence des animaux fascine aujourd'hui les scientifiques. L'idée n'est pas de les comparer à la nôtre, mais de reconnaître leur aptitude à résoudre des problèmes, à communiquer ou à s'adapter à leur environnement. Article à retrouver sur France Bleu Mayenne. Autre grand sujet aujourd'hui, la surexposition aux écrans. Symptôme d'un environnement trop peu stimulant. Ce n'est pas l'exposition aux écrans qui pose problème chez les jeunes enfants, mais plutôt ce à quoi elle se substitue. Par exemple, un enfant qui passe beaucoup de temps devant une tablette entre 4 et 6 heures ne souffre pas directement de l'exposition à l'écran, mais de la substitution de ce dernier à des activités beaucoup plus essentielles pour son développement. Par exemple, discuter avec ses parents, faire des jeux d'encastrement impliquant des raisonnements logiques ou avoir des activités de lecture nécessaires pour développer son vocabulaire. L'écran serait alors vu non pas comme la cause d'un problème dans le développement de l'enfant, mais comme le symptôme d'un dysfonctionnement familial ou d'un environnement trop peu stimulant. Il est donc conseillé de ne pas utiliser d'écran avant 3 ans, puis d'accorder à l'enfant une heure entre 3 et 6 ans, si possible avec un accompagnement parental.
Nous poursuivons avec à quoi peut servir l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle peut servir à effacer des accents, comme l'a fait une entreprise française de centre d'appel qui a utilisé l'IA pour effacer l'accent de leur employé indien. Leader mondial des centres d'appel, l'entreprise française Téléperformance utilise un logiciel d'intelligence artificielle pour effacer l'accent de ses téléconseillers indiens. Une pratique qui suscite de nombreuses interrogations d'un point de vue éthique. On passe maintenant à l'intelligence végétale. une nouvelle forme d'intelligence végétale mise en place en évidence chez certaines plantes. C'est le cas chez la verge d'or, qui est une espèce de plante aux fleurs dorées. Elle est capable de percevoir les signaux de danger émis par une de ses congénères sans besoin de contact direct. Par exemple, si elle est attaquée par des insectes ravageurs, elle modifie son comportement pour faire face à la menace. Elle pousse principalement en Amérique du Nord dans un nouvel article de chercheurs de l'université Cornell. André Kassler et Michael Müller affirment avoir mis en évidence l'existence d'une nouvelle forme d'intelligence végétale chez la verge d'or, connue sous le nom scientifique de Solidago atlicima.
Après l'intelligence végétale, dernier titre, l'intelligence humaine pourrait disparaître. L'IA devrait dépasser l'intelligence humaine dès 2027. Sommes-nous fichus ? L'intelligence artificielle progresse à une vitesse impressionnante. Certains experts estiment qu'elle pourrait dépasser l'intelligence humaine dès 2027. C'est un obstacle technique qui pourrait ralentir cette évolution. Elle prend trop d'énergie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très belle journée à vous.
Merci Hugo et Louane pour ces actualités. On a appris plein de choses grâce à vous. Merci beaucoup.
Louane vient d'arriver dans le studio. Elle a l'air en pleine forme pour vous redonner le sourire en ce mercredi après-midi.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de l'intelligence, que ce soit de l'intelligence artificielle, humaine, animale ou encore végétale. Vous êtes-vous déjà demandé si nous sommes vraiment intelligents ? Eh oui, bonne question. Je ne pense pas que vous vous posiez cette question en vous levant le matin. C'est vrai que l'humain aime bien dire qu'il est le plus intelligent et qu'il a une capacité à réfléchir beaucoup plus développée que d'autres êtres vivants. Quand on réfléchit, c'est un peu vrai. On a par exemple inventé l'électricité ou encore l'eau chaude. Mais bon, l'eau chaude, ce n'est pas le cas de tout le monde. Si on réfléchit bien, sommes-nous vraiment si malins ? N'allons-nous pas nous faire dépasser par l'intelligence artificielle ? Elle apprend à une vitesse grand V, mais tout ça, c'est d'abord grâce à l'homme qui a conçu ses programmes. Mais rassurez-vous, l'IA a beau aller vite, elle n'a pas encore compris pourquoi on pleure devant un oignon en faisant une tarte, alors qu'en plus, ta sœur vient te voir en te demandant « ça va ?» alors qu'elle voit très bien que ça ne va pas. Et les animaux dans tout ça ? Leur intelligence est souvent sous-estimée, alors que ce matin, mon petit matou a su parfaitement comment me manipuler pour obtenir des croquettes à 6h du matin. Ou alors cette autre fois, quand il a uriné dans la cuisine pour m'énerver car monsieur était contrarié que je ne lui donne pas sa ration du matin. Il y a aussi certains oiseaux qui sont capables de dire et apprendre plus de 1000 mots. Vous vous rendez compte ? Ils ont la capacité d'un enfant de 5 ans, mais il y a aussi les chimpanzés qui sont également capables de faire un peu d'arithmétique. Et oui, c'est vrai que ça peut surprendre, mais les chimpanzés ont quelques formules mathématiques assez complexes. Mais leur intelligence ne se développe pas, elle stagne, ce qui est tout l'inverse de l'être humain. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a l'intelligence végétale aussi. Et oui, il ne faut pas l'oublier. Mais les arbres communiquent entre eux et savent s'adapter à leur environnement. Et nous, pendant ce temps, on continue de filmer des vidéos sur les réseaux sociaux en dansant toute la journée devant notre portable ou en se filmant en train d'essayer de faire 4 tours d'un rond-point en moins de 20 secondes avec une voiture coupée en deux. Complètement débile, n'est-ce pas ? Finalement, quand on y réfléchit, l'intelligence, ce n'est pas forcément une question de QI, mais plutôt d'esprit critique, ou encore de culture générale. Et concernant cela, il semblerait qu'on ait encore quelques leçons à prendre auprès d'un poulpe.
Merci Louane, mais du coup, grâce à toi ou pas, on aurait pu changer le nom de l'émission par « Sommes-nous vraiment débiles, du coup ?»
Merci Louane pour ce billet d'humeur. On va revenir à nos moutons avec Margot et Kevin qui nous emmènent en immersion dans l'exposition du Zoom de Laval qui est, je crois, à l'origine du thème de cette émission.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Nous sommes face aux portes du Zoom, un patrimoine emblématique de Laval conçu au XIXe siècle par l'architecte Léopold Riedel. Le Zoom, en tout centre de culture scientifique, existe depuis 1996. Le Zoom est une association présidée par Olivier Lenoir, qui est par ailleurs le directeur de l'ESIA. L'association compte une dizaine de salariés, une super belle équipe, super chaleureuse.
Il y a des activités visant à stimuler la créativité de l'innovation. L'association a été créée dans le but de développer la culture sous différentes formes, soit scientifiques, techniques ou industrielles. Les futurs projets sont autour de l'eau, du handicap, de l'idée du travail, de l'inclusion, de l'accessibilité du public, des sciences exactes aux sciences de l'environnement, en passant par les sciences humaines ou encore les sciences de la Terre et de l'univers. Il y a de tout pour petits et grands. Nous voici ici pour rencontrer Clotilde Aubert, médiatrice animant ce magnifique musée qui nous éclaire un peu plus sur ce sujet et nous présentera l'exposition.
Bonjour Clotilde Aubert, nous sommes reporters et nous nous interrogeons pas mal sur qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence et par la suite nous intéressons aussi à votre parcours.
Donc comment et dans quelles circonstances nous sert l'IA ?
Alors en ce qui concerne l'intelligence artificielle, donc c'est pas du tout mon domaine d'expertise mais je peux en dire quelques mots. Donc, en effet, aujourd'hui on utilise énormément de techniques d'intelligence artificielle dans notre quotidien et ça peut s'avérer être un outil très intéressant, très puissant pour nous aider justement dans ce quotidien par des applications GPS par exemple, dans le domaine de la santé avec le diagnostic précoce sur imagerie médicale ou encore dans l'industrie. Donc voilà, c'est un outil qui peut nous être très utile à nous en tant qu'êtres humains, mais il y a plein de questions aussi à se poser en termes de régulation, d'encadrement liés aux enjeux de cette technologie.
Nous nous questionnons aussi sur quel est le but et l'objectif de l'exposition.
D'accord, donc l'exposition qu'on a en ce moment, c'est l'exposition Géniale. Elle a pour but de discuter, déconstruire la notion d'intelligence. Donc, elle cherche à donner aux visiteurs et aux visiteuses les éléments informatifs, expérimentaux, pour qu'ils et elles puissent se faire leur propre opinion sur cette question. Et si on considère par exemple l'intelligence comme la capacité à résoudre de manière innovante des problèmes, alors on se rend compte que cette notion, elle peut s'appliquer non seulement aux êtres humains, mais aussi aux bactéries, aux végétaux, à tous les animaux et à certaines technologies de l'intelligence artificielle.
Nous nous posons une question, en quoi elle est fun cette exposition ?
Alors du coup, la notion de fun, c'est très très personnel. Alors pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'elle est fun lorsqu'on la vit à plusieurs, avec nos proches, nos amis, etc. Parce qu'il y a de nombreux jeux. Alors moi, j'aime beaucoup jouer. J'aime beaucoup apprendre en jouant. Et pour les personnes qui aiment apprendre en jouant, je pense qu'en effet, elle peut être plutôt fun. Mais voilà, c'est très personnel.
Et il y a un type de public visé par ces expositions ?
Alors cette exposition, elle vise un public à partir de 7 ans. Mais c'est uniquement une indication. Il faut savoir qu'en fait, la plupart des expositions qu'on accueille, on cible un âge minimum, mais il y a tellement de modules divers que ça peut convenir en effet à un public très divers à partir du moment où il y a un accompagnement qui est adapté, alors soit par un médiateur ou une médiatrice, mais aussi par des adultes, d'autres personnes qui peuvent accompagner un public plus jeune. Voilà, c'est l'avantage de ces expositions. Elles sont censées être ludiques, interactives, et adapté à plus de personnes possibles.
Quelle activité au sein de l'exposition vous plaît le plus ?
Alors, c'est dur à répondre, il y en a plusieurs. Mais dans l'espace intelligence humaine, j'aime beaucoup le jeu qui s'appelle le Grand 8 des intelligences. Il s'agit d'un jeu basé sur la théorie des intelligences multiples, qui est du psychologue américain Howard Gardner. Et je trouve qu'il est particulièrement ludique. Il plaît d'ailleurs beaucoup au public et aux plus jeunes comme aux moins jeunes. Et en fait, l'idée de ce jeu, c'est d'expérimenter les différentes formes d'intelligence. Et je l'aime beaucoup parce qu'il donne une vision plus large de l'intelligence. Pas seulement l'intelligence mathématique, scolaire. On va y parler d'intelligence verbale, d'intelligence artistique, musicale. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce module.
Super. Et vous avez d'autres projets au sein de cette association ?
Eh bien oui, donc là l'exposition elle va s'arrêter au 4 mai, donc assez prochainement. Et après on va accueillir une exposition qui s'appelle Cirque à Science. Donc une exposition qui va traiter en fait des arts du cirque et des notions de physique qui se cachent derrière les arts du cirque. Dans ce cadre-là, on va notamment conçoit un escape game avec différents niveaux pour pouvoir aborder ces notions. On mettra à disposition une bibliothèque, une ludothèque pour le public. Voilà, on essaye toujours de créer plein de choses autour de nos expositions. Et on continuera à se déplacer sur tout le département pour faire des interventions, etc. Je vous propose du coup de visiter un petit peu cette exposition. Donc moi, je vous ai cité une activité qui me plaisait beaucoup dans l'espace intelligence humaine, mais on va se diriger dans l'espace intelligence animale et je vais vous proposer de participer à une petite activité qui s'appelle Constructor et qui consiste à fabriquer une structure avec des règles très simples, comme si on était dans une termitière.
Je pourrais passer ma vie à faire des cubes, ça me rend tellement heureux.
Ben, je suis ravie de voir que cette activité vous plaît. On va peut-être aller dans l'espace intelligence artificielle. Je vous propose de tester un petit simulateur de conduite. Voilà, je vous laisse tester.
C'est vrai qu'il y a que Margot en a beaucoup besoin.
T'as trop pris la confiance toi avec les cubes. Bah, allez-y, prenez place du coup dans ce simulateur de conduite.
Margot, t'es pris un mur là.
Oups, la boulette. Bon, c'est peut-être pas l'activité qui vous convient le mieux, mais c'est pas grave, je vous propose maintenant d'aller dans l'espace intelligence humaine. Et ici, vous allez tester une autre forme de compétence. Alors, ce jeu s'appelle IntelliMonde. Donc, vous allez vous retrouver sur une carte du monde et vous allez devoir replacer des inventions, des traditions culturelles un peu partout dans le monde. Donc, bon courage à vous. J'espère que la géographie, c'est un point pour vous qui fonctionne bien.
Allez, Kevin, à toi, Jim, on va bien rigoler.
Allez, c'est parti. Je suis pas vraiment très doué en géographie, mais ça peut être quelque chose de rigolo.
Bon, en tout cas, j'espère que ces activités vous ont plu et que l'exposition vous a plu également. N'hésitez pas à revenir, c'était un plaisir de vous accueillir.
Merci pour ce temps consacré, de nous avoir éclairé sur ce sujet. À bientôt pour plus d'amusement en compagnie des meilleurs reporters, Kevin et Margot.
Merci à tous les deux et merci infiniment à Clotilde. Comme si on y était, on vous invite donc à filer au Zoom. Vous n'avez plus que quelques jours jusqu'au 4 mai, c'est à partir de 7 ans et comptez environ 1h45 pour le temps de visite. Vous ne regretterez pas.
Avant de poursuivre, on écoute Calvin Harris avec son titre « Outside ». Thank you. Connaissez-vous l'intelligence des babouins? Personne ne connaît, on est d'accord. Alors Clarisse et Enzo vont nous faire découvrir les recherches de scientifiques sur les babouins.
Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder avec vous l'intelligence animale. Les animaux font preuve d'intelligence, que ce soit pour survivre, se nourrir ou communiquer. De nombreuses expériences scientifiques ont été faites sur les animaux, afin de prouver qu'ils ne sont pas des machines et qu'ils ne font pas que des choses par instinct. Nous les aimons. Nous recherchons leur compagnie, nous les dressons, nous les observons et nous les maltraitons aussi. Mais qu'y a-t-il derrière leur regard? Comment réagissent-ils avec le monde qui les entoure? Comment interprètent-ils les événements qui leur arrivent? Des expériences menées par des scientifiques nous montrent que les animaux font preuve d'une étonnante capacité. Nous nous sommes penchés sur l'expérience menée sur des babouins du centre de primatologie du CNRS près d'Aix-en-Provence.
Ici, dans ce centre, 29 babouins vivent en semi-liberté. L'objectif des scientifiques est de démontrer comment des singes réfléchissent grâce à l'expérience suivante. Imaginez-vous à la place du babouin, dans une petite pièce face à un écran. On va vous présenter une paire de formes composées de deux éléments qui est soit identique, soit différent. Une fois que vous avez touché ce stimuli, on vous présente deux autres paires. Une première paire représentant une relation d'identité, l'autre paire représente une relation de différence. Vous allez devoir identifier quelle est la paire qui correspond à la première relation que vous avez vue en la touchant.
Revenons un peu sur notre singe. On peut penser que le singe va comparer les formes et choisir la paire la plus proche de celle de départ. En réalité, ils sont bien plus intelligents que ça. Ils vont réfléchir par analogie, c'est-à-dire transférer une information d'un contexte à un autre, en comparant la relation entre les icônes et trouvant ainsi la bonne réponse, obtenant une récompense.
En conclusion, cette façon de réfléchir que l'on pensait n'être que celle des humains est en fait bien développée chez les animaux. Ces expériences réalisées sur les babouins mettent en lumière une intelligence animale bien plus complexe qu'on ne le pense. Elles prouvent que les animaux ne réagissent pas uniquement par instinct, mais qu'ils sont capables de réflexion, d'apprentissage et d'adaptation à leur environnement. Loin d'être de simples machines biologiques, ils possèdent une capacité d'analyse et de prise de décision qui ont le mérite d'être reconnues. Ces découvertes nous amènent ainsi à repenser notre rapport aux animaux et à leur intelligence, nous ouvrant la voie à de nouvelles perspectives sur la place qu'ils occupent à nos côtés. Merci de votre écoute. Pour en découvrir plus, rendez-vous sur la chaîne YouTube de la RTBF avec la vidéo « L'intelligence animale ou comment apprendre des comportements primitifs ».
Grazie mille. Impressionnant cette intelligence, non? Alors continuons sur le sujet avec Olivia et Enzo qui vont interroger les passants pour savoir si le monde est béton sur le sujet.
Sommes-nous vraiment intelligents? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour Martin.
Bonjour Marie.
Avec Enzo, on s'est muni de notre micro à la recherche de différentes réponses plus folles les unes que les autres.
Certaines réponses vont vous surprendre et sans nous vanter, nous avons décoté quelques pépites qui nous ont fait bien rire.
Mais avant de commencer, nous avons une question pour vous. Selon vous, quel est l'animal le plus intelligent du monde?
Je sais pas. Il paraît que le cochon, c'est super intelligent. C'est l'animal qui se rapproche le plus de l'humain.
Moi, j'aurais dit le singe. C'est ce qui nous rapproche le plus de lui.
On écoute tout de suite le micro-trottoir.
Avez-vous un animal de compagnie?
Oui, j'en ai deux.
Des cailles, des poules, des quatre chiens, des poissons rouges, des faisans.
Oui, j'ai un chien et un chat.
Oui, j'ai une vache miniature, deux chats et un petit chien.
Oui, j'ai un chien, un épagneul breton tricolore.
Un chien et des poules.
Selon vous, quel est l'animal le plus intelligent?
Le chien, parce qu'il est plus intelligent que l'homme.
Selon moi, c'est le chat.
Le chien, je pense. Bah, parce qu'il sert dans la médecine et pour les handicaps surtout.
Selon moi, l'animal le plus intelligent du monde, c'est le dauphin.
Pour moi, l'animal le plus intelligent du monde, C'est la poule.
Je pense que l'animal le plus intelligent du monde, c'est le singe.
Et avez-vous déjà rencontré une expérience où un animal faisait un truc intelligent, par exemple le chat
ou... Oui, il est capable d'ouvrir une porte ou d'ouvrir le paquet de croquettes.
J'ai mon chien qui sait marcher sur ses deux pattes arrière comme un humain.
Mes deux chats, ils arrivent à ouvrir le placard à croquettes. En fait, ils savent où est le placard à croquettes. Et donc, ils l'ouvrent tout seul avec leurs pattes.
Mon chat, il fait ses besoins tout seul dans les toilettes. Bon, après, on a dû lui apprendre, mais...
Oui, surtout pour les chiens, pour les aveugles. Je trouve que c'est pas mal pour les guider et tout.
Comme vous l'avez entendu, les réponses sont assez variées. Mais le chien décroche le titre de l'animal le plus intelligent, selon les personnes interviewées.
Nous aurons juste après la réponse à cette question dont nous attendons l'explication grâce à Lisa et Thomas qui ont travaillé sur l'intelligence animale. Faites vos paris.
Quitos, Olivia et Enzo, et aux passants bien entendu. Maintenant on connaît leur avis. Bon bah on avait perdu tous les deux Martin, nous on était sur le cochon et le singe. Apparemment le chien a remporté tous les suffrages. Donc on va voir ce qu'en disent nos experts Lisa et Thomas.
Sommes-nous vraiment intelligents? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour Marie, bonjour Martin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'intelligence animale. Alors que l'homme, toujours perçu comme le plus intelligent, des animaux ont aussi leur propre forme d'intelligence utile à leur milieu. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des espèces marines comme la pieuvre, forte pour l'adaptation et la manipulation, mais également d'une espèce bien différente de la pieuvre, le dauphin, un être très sociable et fort pour communiquer. Nous allons vous présenter où, comment et pourquoi leur intelligence se manifeste.
La pieuvre rentre dans le top 6 des animaux les plus intelligents, malgré son petit cerveau. Elle fait partie de la même famille que les poulpes. Elle détient des neurones dans chacune de ses tentacules, ce qui va lui permettre par exemple de traiter des informations séparément dans chaque bras. On peut alors dire que la pieuvre a 9 cerveaux et 3 cœurs. Elle va être capable de se camoufler très rapidement à son milieu, en changeant de couleur pour se fondre dans son environnement. D'ailleurs, le saviez-vous, à l'aide de ses tentacules, une pieuvre est capable de sortir d'un bocal dans lequel elle était piégée en moins de 2 minutes. Mais qu'en est-il du dauphin ?
Le dauphin va battre la pieuvre en entrant dans le top 3 des animaux les plus intelligents. Contrairement à la pieuvre, le dauphin n'a pas un petit cerveau mais un cerveau très développé. Ce cétacé est connu pour sa sociabilité et son comportement amical avec l'homme. C'est une espèce qui va vivre en groupe et qui va donc communiquer par des sons et des gestes, mais il a aussi un système sonar qui lui permet de naviguer dans l'obscurité. Mais d'ailleurs, le saviez-vous, les dauphins sont capables de se servir d'outils comme l'éponge qu'il va mettre sur le bout de son nez pour éviter de se blesser dans les coquillages.
Si la pieuvre et le dauphin sont deux espèces différentes, l'une vit en solitaire et l'autre en groupe, ils ont tous les deux leur forme d'intelligence qui va leur permettre de s'adapter à leur milieu. Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la National Geographic.
Shuklan ! Hé Thomas, tu m'aurais dit qu'un jour une pieuvre pourrait ouvrir mon pot de confiture le matin, je t'y aurais vraiment jamais cru. Incroyable !
Dans le genre impressionnant, connaissez-vous le blob ? C'est une créature aussi fascinante que flippante, mais on ne parle pas d'un animal. Alors Benoît et Alix ont travaillé sur le sujet, allons découvrir cette chose bien mystérieuse.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour Martin, bonjour Marie. Avez-vous déjà entendu parler du blob ?
Moi je découvre, j'ai vaguement entendu parler mais j'ai hâte d'en découvrir plus.
Personnellement, j'ai déjà vu un reportage dessus mais c'est assez vague pour moi.
Peut-être que vous avez déjà croisé cette créature en vous promenant dans la forêt, de chêne ou sur une écorce d'arbre. C'est un être vivant qui rampe dans les milieux frais et humides. Cette apparence moisissure, jaune et visqueuse, vous voyez, on n'en était pas si loin du slime au final. Il y a prolongement en éventail qui s'étire et le blob est capable de s'échapper en dehors d'une boîte si l'on n'y prend pas de garde. C'est vraiment super étrange. En tout cas, il attire les curieux.
Il possède une seule cellule géante qui possède de multiples noyaux.
Alors ce n'est ni un animal, ni une plante, ni un champignon.
Vous avez déjà peut-être entendu parler sous un autre nom, Physarum, polycéphalum. Bon, franchement, je pense pas. À moins que vous soyez un scientifique. Bon, du coup, on disait que Physarum, polycéphalum signifie un organisme à plusieurs têtes. Savez-vous que l'on ne peut le voir à l'œil nu, même si c'est une cellule. Il peut atteindre jusqu'à 10 mètres carrés, ce qui est énorme pour une seule cellule. Il grossit très vite, jusqu'à 2 fois sa taille par jour.
Avez-vous une idée de quand il a été découvert ? Vous devez sûrement penser à cette découverte récente, mais non. En 1822, le mycologue américain Lewis David von Schmidt a fait sa découverte. Mais il est apparu il y a plus d'un milliard d'années.
Connaissez-vous Audrey Dussutour ? Son nom vous dit rien ? Eh bien, sachez qu'elle a réalisé une expérience pour prouver que le blob peut apprendre à manger quelque chose qu'il ne connaît pas et l'aimer ainsi. C'est le sel. Pour commencer, elle a pris 4000 blobs qu'elle a positionnés sur une plaque avec un pont de sel entre la nourriture préférée du blob et le blob lui-même. Le premier jour, le blob a pris 10 heures à parcourir seulement 1 cm. Mais au fil des jours, il a appris à aimer le sel et au bout de 5 jours, il traversait le pont de sel comme s'il n'y en avait pas. Donc, elle peut dire qu'elle a fait apprendre le blob à aimer le sel.
Tout le monde était plus surpris car le blob n'a pas de cerveau. Suite à cette expérience avec 4000 blobs, elle peut conclure qu'ils peuvent apprendre à aimer quelque chose. Certains neuropsychologues étaient sceptiques car ils disaient que sans cerveau, on ne peut pas apprendre. Elle a prouvé le contraire.
Elle a ensuite voulu voir si le blob qui aime le sel peut transmettre ses goûts à un blob qui n'aime pas le sel. Elle a donc fait une fusion entre les blobs pour former qu'un seul réseau de veines en 3 heures. Les deux blobs aiment alors le sel. Elle a essayé une autre méthode pour apprendre au blob à aimer le sel, en injectant du sel dans les veines d'un blob. Naïf, et ce blob s'est mis à aimer le sel. Le système nerveux du blob, c'est ses veines.
Tous les blobs sont différents, cela dépend de leurs souvenirs et donc ça a un impact sur leur déplacement et la nourriture. Comme le blob américain qui préfère la nourriture américaine. Et il n'aime pas les flocons d'avoine, contrairement à l'Australien qui en raffole. Le blob pourrait aider la science pour les tumeurs cancérigènes.
Donc en résumé, le blob, c'est une cellule géante avec de multiples noyaux, avec son système nerveux dans les veines, qui n'a pas de cerveau et qui peut transmettre ses apprentissages. C'est une créature étrange qui pourrait aider la science pour étudier les tumeurs cancérigènes. Mais ce n'est pas génial tout ça ?
Arigato ! Mais c'est incroyable cette histoire de blob. Allez, merci pour toutes ces infos d'une part, et puis n'hésitez pas à aller voir sur le net, il faut le voir pour le croire. Alors on a vu qu'il y avait des formes d'intelligence partout, chez les animaux, les végétaux. Et on va voir maintenant chez les humains, avec Inès et Léo, on va découvrir si on est intelligent dès la naissance ou si on le devient au fil de la vie.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
L'intelligence est-elle naturelle ou culturelle ? Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va vous parler de l'intelligence humaine. À quoi cela vous fait penser ? Est-ce que vous vous considérez comme intelligent ?
Moi, personnellement, je me trouve très intelligent par mes actes, par ce que je fais. Donc voilà, moi, je me trouve très intelligent.
Et modeste, apparemment, également. Moi, ça va. Je dirais que moi, j'ai forgé mon intelligence au fil de mon expérience.
Même sans expérience, on peut dire qu'on est intelligent. Hein.
Bah, non, t'as pas tort. Mais bon, ils vont peut-être nous en dire plus.
Donc tout d'abord, c'est quoi ? Ça correspond à 3 compétences. Tout d'abord, les compétences cognitives, donc la capacité à comprendre quelque chose et à résoudre des problèmes. Par exemple, comprendre un texte ou résoudre un problème de maths. La compétence émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à comprendre et à gérer ses propres émotions. Et celle des autres regroupant nos interactions sociales de tous les jours. C'est avoir de l'empathie quand ton pote est triste ou se réjouit quand il annonce une bonne nouvelle. Et il y a aussi les compétences d'adaptation au changement. Ton train a été annulé, tu t'adaptes, tu trouves une solution.
Ensuite, d'où ça vient ? Dès la conception du cerveau, dans le ventre de ta maman, il est génétiquement programmé pour interagir, comprendre et apprendre. Le nourrisson a dès la naissance des compétences précoces, c'est-à-dire des capacités intellectuelles provenant de la génétique. Si elles ne sont pas assez stimulées par leur environnement de vie, pendant l'enfance, elles seront perdues pour l'enfant.
Naît-on intelligent ou le devient-on ? C'est la combinaison de l'inné et de l'acquis. Le QI reste l'indicateur de performance le plus utilisé. Il y a une étude qui montre que les vrais jumeaux ont des QI plus proches que des faux jumeaux parce qu'ils ont un génome en commun, donc c'est-à-dire l'identité génétique d'une personne. Il n'y a pas de gène spécifique à l'intelligence, mais c'est la combinaison de gènes qui vont produire ce que l'on appelle l'inné, les compétences intellectuelles qu'on a dès la naissance. Ensuite, le niveau d'éducation, le stress, la nutrition et la disponibilité des parents jouent beaucoup. D'après une étude menée par une équipe de l'Université de Californie du Sud en 2021, on a pris 1099 personnes de 3 à 20 ans qui ont été étudiées selon le revenu des parents, la morphologie du cerveau des enfants et leurs résultats à des tests de QI. Ils en ont conclu que des enfants vivant dans les familles les plus pauvres avaient une surface cérébrale jusqu'à 6% plus petite que celle des enfants de familles riches. Chez les enfants de familles aisées, environ 60% de différence de QI serait liée aux gènes. A l'inverse, pour des enfants de milieux défavorisés, il y a peu d'influence génétique, car les contraintes environnementales sont si fortes, qui génèrent beaucoup de stress, qu'elles pourraient influencer le développement de l'intelligence et l'expression des gènes.
Chacun de nous se sent plus performant quand il a de bonne humeur, quand il est de bonne humeur et pas stressé. Les facteurs environnementaux sont liés aux émotions. La pédiatre Catherine Gigan estime dans son ouvrage « Vivre heureux avec son enfant » publié en 2015 que dès que les adultes sont chaleureux et bienveillants, l'enfant produit de la dopamine qui rend l'enfant plus heureux, sociable, apaisé, motivé et créatif. Son cerveau se développe favorablement et mémorise et apprend mieux. Bref, il est plus intelligent. En conclusion, l'intelligence peut être aussi bien naturelle que culturelle, selon des critères comme le QI, les conditions d'éducation, le stress, le revenu des parents et bien d'autres. Après cela, vous sentez-vous toujours intelligent ? On espère que vous en avez appris un peu plus sur l'intelligence humaine. Merci de votre écoute et à bientôt.
Tac, Inès et Léo, on va aborder un gros dossier qui fait couler beaucoup d'encre de nos jours, l'intelligence artificielle, de son petit surnom, IA.
Mais juste avant, je voulais vous faire écouter un son. C'est la chanson Sayan de Us et Gazo qui a été reprise par Angèle. La chanson est devenue virale sur les réseaux et pourtant Angèle n'avait jamais fait cette reprise. C'est un jeune beatmaker de 21 ans qui a reproduit la voix de la chanteuse belge grâce à l'intelligence artificielle. On écoute ça tout de suite, c'est bluffant.
Sans le vouloir et sans faire de magie, j'aurais jamais comment tu souffles, mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux, mais j'trop agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, babe, t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe, j'ai assez faux pour nos terres. Quand tu me demandes si j'peux rester encore un peu, mais t'as mouillé tout le pieu, j'veux pas que tu tombes amoureuse. Du ice et de l'or, qu'une clé du corps, l'argent de la mort. J'ai une moula qui sort au volant du Cayenne, une blonde comme marseillaine, j'crois que c'est un alien. Mais j'en veux encore. Elle a les cheveux dorés, la peau bien bronzée. Elle boit du daiquiri, elle m'appelle ma chérie. On va pas finir l'année, on va se séparer. Sur moi t'atomisé, mais j'suis qu'une enfoirée. Quand je te mentais, je te disais que tu manquais. J'ai pas fini de chanter, comme un ange peut sauter. On se tue la santé, j'étais mal à fille à côté. J'ai pas envie d'accoster, j'ai mis mon cœur de côté. Du ice et de l'or, qu'une clé du corps. L'argent de la mort, j'ai une moula qui sort. Au volant du Cayenne, une blonde comme marseillaine. J'crois que c'est un alien.
Donc Léna et Marius ouvrent le bal sur l'intelligence artificielle.
Bonjour Martin, aujourd'hui on va vous présenter l'intelligence artificielle qui se retrouve partout. Elle est dans nos téléphones, nos ordinateurs, nos voitures et même dans les jeux vidéo. Cette technologie évolue tellement vite qu'elle change et qu'elle peut être une façon de vivre et de travailler. Mais jusqu'où cela peut-elle arriver? Et surtout, quelles seront les conséquences pour nous?
L'un des sujets qui revient souvent, c'est l'impact de l'IA sur l'emploi. De plus en plus de tâches qui étaient autrefois faites par des humains sont maintenant réalisées par des machines. Résultat, certains métiers risquent de disparaître, tandis que d'autres, qu'on ne connaît pas encore, vont apparaître. Le monde du travail est en train de changer et il faudra s'adapter.
Il faut aussi comprendre que l'IA n'est pas qu'une seule et même chose. Il y a ce qu'on appelle l'IA faible, Annie, qui s'occupe des tâches précises comme les assistances vocaux ou les recommandations de séries ou des plateformes. puis il y a l'IA forte, AGI, qui pourrait dans le futur raisonner et réfléchir comme les humains. Enfin, une IA super intelligente, l'ASI, une idée encore très théorique qui dépasse l'intelligence humaine, un peu comme dans les idées encore très théoriques qui dépassent encore l'intelligence humaine, un peu comme des films de science-fiction.
Mais l'IA, ce n'est pas que des concepts compliqués. Elle est déjà bien présente dans les domaines qu'on connaît tous, comme les jeux vidéo. Connaissez-vous des jeux vidéo qui fonctionneraient avec l'IA ? Grâce à elle, les personnages qu'on affronte ou avec qui on interagit deviennent plus réalistes. Ils réagissent à ce qu'on fait, changent de stratégie et rendent l'expérience plus vivante et plus prenante. Fini le temps où les ennemis faisaient toujours la même chose.
Au-delà de ces avancées, il y a des questions importantes qu'on doit se poser. Que va devenir le travail humain ? Dans quel monde ou dans quelle machine peuvent faire de plus en plus de choses ? Comment encadrer des technologies ? Ou qu'elles restent outils ou non une menace ? Encore fait, le vrai sujet, ce n'est pas juste l'IA, mais la place qu'on veut lui faire donner dans notre société.
Des chercheurs ont mené des enquêtes sur l'IA dans le milieu du travail. De Laboria a publié le 17 mai les résultats d'une enquête sur l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du travail.
Menée par le ministère dans le travail de l'INRIA, cette étude interrogée par des décideurs d'entreprise pour mieux comprendre les relations entre les humains et les machines.
Les conclusions montrent que l'IA transforme progressivement les organisations obligeant les travailleurs à s'adapter. L'étude souligne aussi l'importance de trouver un équilibre entre la gestion des entreprises et la réalité du travail, ainsi que les effets sur le management.
Finalement, l'intelligence artificielle ouvre des portes incroyables, mais elle nous pousse aussi à réfléchir. Ce n'est pas juste une question de progrès technologique, c'est une question d'avenir et de choix. À nous de décider comment on veut avancer avec celle-ci.
Akiba, Léna et Marius, on se tourne maintenant vers Lorna et Alexandre qui ont eu la bonne idée de rencontrer un chercheur qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle, autrement dit IA, en compagnie de notre cher invité du jour, chercheur dans ce domaine, Thibaut Bélanger, bonjour. Peux-tu dans un premier temps te présenter, nous parler de toi et de tes études ?
Bien sûr, donc d'abord bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Thibaut Bélanger, j'ai 25 ans et je suis en dernière année de thèse en IA, donc en intelligence artificielle. Ce qui correspond maintenant à un niveau bac plus 8. Donc j'ai fait un bac scientifique au lycée Rousseau, 5 ans d'études d'ingénieur à l'ESIEA, et j'ai ensuite décidé de poursuivre en thèse pour obtenir un doctorat donc, en IA appliqué à la cybersécurité. Donc j'ai terminé mes études d'ingénieur en 2022 et une thèse dure 3 ans dans notre domaine, donc je suis actuellement en dernière année et je devrais soutenir ma thèse en décembre.
Donc d'accord, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que les IA et qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller ?
Donc l'ESIEA, c'est une école d'ingénieurs lavalloise située à la Technopole. C'est une école qui fonctionne beaucoup par projet, notamment des projets interdisciplinaires que je trouve super intéressants, particulièrement quand on ne sait pas trop vers quelle spécialité s'orienter. Donc on choisit une spécialité à partir de la 4e année, qui peut être donc intelligence artificielle, cybersécurité, réalité virtuelle, électronique embarquée ou développement logiciel. Ce qui m'a donné envie d'y aller, donc je faisais des concours scientifiques quand j'étais au lycée. Je m'occupais surtout de la partie électronique et informatique des projets, donc ça c'est vraiment ce qui me plaisait. Et on m'a parlé de l'école, on m'a dit qu'on faisait justement typiquement ce genre de projet que j'aimais bien et que ce serait bien que je participe à une journée porte ouverte. Donc c'est ce que j'ai fait et puis ben, j'ai évidemment adoré. Puis j'ai aussi rencontré des étudiants musiciens et donc à l'époque j'allais régulièrement déjà dans les locaux de l'ESIA pour jouer avec eux. parce qu'il y avait déjà une batterie sur place, donc c'était pratique. Et donc j'ai découvert encore plus l'école, j'ai fait la connaissance d'encore plus d'étudiants, et j'étais pas encore inscrit que je me sentais déjà chez moi, donc c'est à partir de là que j'ai su que c'est l'école qu'il me fallait.
Et pourquoi as-tu choisi l'IA et pas autre chose ?
Donc dans les projets que j'ai faits en étant étudiant, il y en a un qui m'a particulièrement plu quand j'étais en deuxième année. Donc on mélangeait développement logiciel, intelligence artificielle et électronique. Je me suis dit que c'était un très bon moyen de voir ce qui me plaisait ou ce qui ne me plaisait pas, pour que ce soit plus simple de choisir une spécialité en quatrième année. Donc l'objectif du projet, c'était de construire un plateau d'échecs donc physique, un réel, avec un système d'axes caché sous le plateau, et donc capable avec un aimant d'aller chercher une pièce sur le plateau pour la déplacer. Donc vu du dessus, ça avait l'air un peu magique, puisque le système était caché sous le plateau. Et donc avec ce système-là, on pouvait jouer seul contre le plateau lui-même. Donc je déplaçais un pion, les capteurs des cases pouvaient détecter mon pion qui avait bougé. Et donc l'intelligence artificielle calculait le coup suivant à jouer et pouvait justement, grâce au système, faire bouger le pion d'en face sur le plateau lui-même. Donc il y avait vraiment ce côté échiquier d'Harry Potter qui bouge tout seul, vraiment magique. Et c'était un vrai plaisir pour nous de voir justement l'IA s'entraîner et voir qu'on avait réussi à créer quelque chose qui nous paraissait presque intelligent de zéro. Ça m'avait beaucoup plu, donc c'est ce qui m'a fait me tourner vers l'IA.
Et peux-tu nous dire plus les projets d'intelligence artificielle qu'on suivit ?
Bien sûr, en quatrième année, j'ai fait une IA qui pouvait analyser des musiques, donc des musiques que nous, on faisait, pour nous donner justement une note de popularité basée sur les succès Spotify et YouTube, pour trouver un peu la recette, entre guillemets, de la chanson qui se vend bien. Et en cinquième année, j'ai fait un projet de recherche. C'est une possibilité qu'on a à l'école de pouvoir faire de la recherche quand on est encore étudiant, pour voir si ça peut nous plaire. Et donc, c'était un projet de recherche en intelligence artificielle sur les problèmes connus de l'intelligence artificielle.
Et quels sont justement les problèmes rencontrés avec l'IA ?
Alors, les défis techniques sont assez multiples, j'ai envie de dire. Une IA est toujours spécifique à son problème, ce qui veut dire que l'algorithme d'IA que j'utilise et la manière que j'ai de l'utiliser, la manière que j'ai de le paramétrer, ça change vraiment tout le temps en fonction de la tâche que je veux que mon IA accomplisse. Donc une IA qui fait de la reconnaissance faciale n'a absolument rien à voir avec une IA qui fait les recommandations des vidéos sur YouTube, et encore moins avec une IA qui ferait de la conduite autonome, par exemple. C'est à chaque fois hyper particulier, chaque problème a ses propres contraintes. Et donc le problème sur lequel je travaillais dans ce projet de cinquième année, pour faire simple, on travaillait sur une IA capable de faire de la classification d'images. Donc un exemple simple, ce serait d'avoir des photos de chiens et de chats, et notre IA, pour chaque photo, va nous dire si c'est un chat ou un chien. Donc disons qu'une IA, c'est juste un programme informatique, donc par définition, une IA ne fera jamais plus que ce qu'on lui demande. Et ce qui pose pour nos images un premier problème, c'est que si je lui montre une photo de girafe, mon IA va forcément me dire que c'est ou un chat ou un chien. Elle n'a pas d'autre choix que de me donner une décision parmi chat ou chien, puisque c'est ce pour quoi elle a été entraînée. Donc être capable de détecter des nouvelles images pour dire à partir de maintenant on fait la différence entre chat, chien et girafe, c'est compliqué à cause de ce qu'on appelle l'oubli catastrophique. Donc en gros, si on change les règles au milieu de l'entraînement, pendant que l'IA s'entraîne à faire la différence entre les images, si on change les règles, il faut tout recommencer depuis le début en disant dès le début qu'il y aura finalement trois animaux. Donc ça pose énormément de problèmes, puisque sur un projet qui peut durer par exemple un an, on a des besoins qui changent, on a des contraintes qui changent, et donc ça nécessite d'avoir absolument tout anticipé en amont, ou alors de devoir recommencer. Donc la recherche a avancé, hein, évidemment, sur ces sujets-là depuis, et c'est à ça que ça sert.
Et on entend beaucoup parler de ChatGPT en ce moment dans les médias. Est-ce que tu pourrais nous en parler et nous dire ce que c'est et comment ça fonctionne ?
Oui, alors ChatGPT, donc, c'est une intelligence artificielle, hein, qui a été développée par OpenAI. Son but, c'est de comprendre des questions en langage naturel, donc comme celle que tu me poses, et d'y répondre de manière fluide, comme si c'était un humain qui parlait. Donc comment ça fonctionne ? En gros, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un modèle de langage, c'est-à-dire un programme informatique qui a été entraîné sur des milliards de textes venant d'Internet, de livres, d'articles. Et donc son but, c'est pas de penser comme un humain, c'est pas d'avoir des intuitions, c'est seulement d'analyser les mots qu'on lui donne et de prédire la meilleure réponse possible en fonction de ce qu'il a appris. Donc si on devait faire une comparaison, c'est exactement comme un grand puzzle où chaque mot est une pièce et ChatGPT, c'est juste d'assembler les pièces les unes après les autres pour former une réponse logique. Il ne comprend pas comme un humain, il n'y a pas d'opinion ni de conscience. On suit simplement des modèles statistiques pour donner la réponse la plus pertinente possible. Donc ça veut dire, par rapport à la question que tu me poses, quel mot a le plus de chances d'être le premier de ma réponse? Et ensuite, compte tenu de la question que tu m'as posée et du premier mot que j'ai répondu, quel mot a le plus de chances de venir après, etc., etc. Donc un point important à comprendre, c'est que ChatGPT ne va pas chercher d'informations en direct sur Internet. Il répond en fonction de ce qu'il a appris avant. Il y a d'autres versions évidemment qui existent et qui peuvent faire des recherches en direct, mais pas ChatGPT. Et donc pourquoi tout le monde en parle en ce moment? Parce que c'est une révolution dans la manière dont on peut interagir avec la technologie, avec un ordinateur classique, avec Google. On doit utiliser des recherches par mots-clés, on doit savoir à peu près où cliquer. Maintenant, ChatGPT et d'autres IA du même genre, on peut discuter naturellement, poser des questions et obtenir des réponses détaillées comme si on parlait à un expert. Donc ça pose des questions intéressantes d'ailleurs sur comment l'utiliser intelligemment, s'il y a des risques. Par exemple, il faut évidemment toujours vérifier les informations puisque ChatGPT peut se tromper. Et il faut être... ça peut être aussi utilisé donc pour créer du faux contenu. Donc il faut évidemment garder un esprit critique et ne pas tout croire sans vérifier. Mais utiliser correctement, c'est un outil puissant qui peut aider à apprendre, à créer, à écrire, à coder aussi.
D'accord, mais est-ce que du coup tu utilises ChatGPT au quotidien?
Alors j'utilise des outils IA au quotidien, mais pas ChatGPT spécifiquement, parce que ChatGPT est très très bon pour, on va dire, le grand public, pour répondre à des questions généralistes. Mais nous, du coup, sur des problèmes de code spécifiques, on a d'autres outils IA.
Et est-ce que pour toi, l'IA peut avoir un côté dangereux en nous remplaçant?
Oui et non. L'IA, comme elle existe aujourd'hui, ne peut pas remplacer la capacité d'analyse d'un humain et trouver une nouvelle solution à un nouveau problème. Donc, comme on l'a dit, ChatGPT n'a aucune notion de réflexion. C'est simplement des probabilités sur quel mot suit quel mot. Il n'y a vraiment aucune réflexion. Et donc de ce point de vue-là, notre capacité d'analyse n'est pas prête d'être remplacée. En revanche, l'IA nous remplace déjà sur des tâches automatisables parce qu'elles sont répétitives. Donc, c'est le cas, par exemple, de la dématérialisation d'archives. Donc, prenons l'exemple d'une entreprise avec 60 ans d'archives papier de factures qui veut tout numériser pour que tout soit accessible facilement. Avant, on devait employer des gens pour lire chaque page, sortir les informations importantes de la facture, donc les rentrer à la main dans l'ordinateur pour mettre le prix, le nom du client, la date, etc. Aujourd'hui, on prend une photo de la facture et c'est automatique. Donc là, le gain de temps, il est incroyable. Et sur ces tâches-là, précisément, oui, on a remplacé les humains.
Et donc, du coup, pour toi, est-ce qu'il faut sensibiliser les jeunes?
Les sensibiliser à l'IA en général, ouais, je pense. Concernant le contenu que peut créer une IA générative, mais ça, je trouve que ça s'applique autant à l'IA qu'à Internet en général. C'est un peu les mêmes réflexes de ne jamais croire tout ce qu'on voit, de toujours vérifier ses sources. C'est un peu des automatismes qu'il faut avoir sur Internet de toute façon. Et donc encore plus avec l'IA générative, puisque on peut donc générer du texte, de l'image, des vidéos, peu importe. Ensuite, on sait évidemment que les élèves et les étudiants utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs à leur place et gagner du temps pour être un peu les plus feignants possible. Et donc là, il faut aussi réfléchir à gagner du temps pour quoi faire. Si c'est pour pouvoir encore plus être sur TikTok et Instagram, je pense que ça n'a pas grand intérêt et c'est même assez grave en fait, mais je pense que c'est bien d'essayer d'apprendre quelque chose. Et donc là où une IA comme ChatGPT est pertinente, je peux vous donner des exemples d'utilisation si vraiment vous voulez de l'aide avec. C'est d'abord réfléchissez par vous-même. Donc il faut savoir qu'une IA générative a ce qu'on appelle une propagation d'erreurs. Donc si je demande à une IA de me générer une image d'un homme dans le désert, donc je vais avoir une image d'un homme dans le désert. Et si ensuite je lui dis, bah tiens, rajoute-moi un chameau, en fait, l'IA va recréer entièrement l'image avec un chameau en plus. Mais l'image ne sera pas exactement la même que la première, parce que comme elle l'aura tout refait, il y aura des petits détails qui vont changer. Et si après je demande un palmier, et après je demande une oasis, et etc., et etc., au bout de 100, 200, 300 images, bah, en fait, on se retrouve avec notre homme de départ qui a un sixième doigt. En fait, le désert, il est bleu, c'est devenu une plage. Et les tout petits détails accumulés font justement cette propagation d'erreurs et ça devient n'importe quoi. C'est exactement pareil avec le texte. Donc on l'a dit, ChatGPT n'a pas de réflexion, c'est uniquement des statistiques. Et donc ça veut dire que quand il vous répond, au moment où il finit sa première phrase, il n'a aucune idée de vers où il va. Donc évidemment, les premières dizaines de lignes sont toujours très bien, et puis la suite se dégrade de plus en plus en qualité hein, par rapport à ce qu'on voulait. Donc la pire idée, c'est évidemment de donner un sujet de dissertation, par exemple, à ChatGPT, en disant « fais-le, il me faut 5 pages ». Le résultat sera forcément une catastrophe. Donc en sensibilisation, je dirais, soyez un peu acteur de ce que vous faites. On peut réfléchir par soi-même à son plan quand c'est le cas d'une dissertation par exemple et voir avec l'IA comment on peut l'améliorer, comment on peut lui demander de simuler une correction de prof par exemple. Et puis pour les plus courageux, qu'est-ce qui empêche de parler à ChatGPT en anglais en lui disant que vous êtes en train d'apprendre l'anglais et que vous allez poser vos questions en anglais, qu'il peut y avoir des fautes d'anglais et que donc avant de vous répondre sur votre dissertation, bah, il doit vous corriger vos fautes d'anglais et vous expliquer pourquoi c'était des fautes. Et là du coup, on ne demande pas à l'IA de faire pour soi et on fait avec. Et donc ça, c'est deux choses vraiment très, très différentes. Un exemple que je donne souvent à propos des IA sur les erreurs qu'elles peuvent faire, et on revient un petit peu au problème d'IA dont on parlait tout à l'heure, c'est quand on cherche par exemple à faire de la classification d'images, donc au lieu de différencier chat et chien, disons qu'on veut faire la différence entre chien et loup. Et ça, c'est un problème qu'on peut donner à nos étudiants. Hein. On leur donne plein d'images de chiens et de loups. Leur IA va apprendre dessus, va dire oui, ça c'est un chien, oui, ça c'est un loup. Et puis, nous, d'un coup, on arrive avec des nouvelles images de loups et leur IA est incapable de détecter que ce sont des loups. Et en fait, on se rend compte que l'IA n'a pas du tout appris à faire la différence entre les chiens et les loups. Elle a simplement appris à repérer la neige sur les photos. Et nous, nos nouvelles images n'ont pas de neige, mais c'est quand même des loups. Et en fait, donc c'est une IA qui fonctionne, mais qui ne fait pas du tout ce que nous, on voulait qu'elle fasse. Et donc ces problèmes-là, donc, qu'on appelle des problèmes d'alignement, hein, ce que moi, je veux faire comprendre à mon IA par rapport à ce qu'elle va faire réellement, c'est pas toujours aligné. Et puis, on a aussi des problèmes d'explicabilité, c'est-à-dire d'être capable d'expliquer la décision que l'IA vient de prendre, sur quels éléments elle s'est basée pour prendre sa décision. Là, c'est par exemple pas du tout le physique du loup, mais plutôt est-ce qu'il y avait de la neige autour. Donc ça, c'est vraiment un problème, et c'est d'ailleurs l'explicabilité en général dans l'intelligence artificielle, c'est d'ailleurs le sujet de ma thèse, donc j'espère apporter ma petite pierre à cet édifice.
Très bien, merci beaucoup Thibaut pour cette intervention sur l'IA. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une nouvelle interview tout aussi intéressante que celle-ci.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Donc, question à vous deux et à Thibaut Bélanger pour cette interview super intéressante. Les élèves en PLS, les profs ont une OLA. Merci à Thibaut. Connaissez-vous maintenant la star de l'intelligence artificielle ? Bien entendu, je parle de ChatGPT. Tito et Elise ont l'air de maîtriser le sujet. À la fin de la chronique, on va faire un vote pour voir si cette chronique a bien été écrite par eux ou a été aidée par ChatGPT.
Sommes-nous vraiment intelligents ? une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.
Bonjour à tous, chers auditeurs, ravi de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'intelligence artificielle dans nos vies. L'intelligence artificielle nous aide dans de nombreux domaines, comme la médecine, le transport, comme les GPS type Waze. D'ailleurs, connaissez-vous Waze ? Moi, j'en ai fait la découverte l'autre jour, c'est super. L'éducation, qui par exemple crée des programmes d'apprentissage adaptés à chacun, l'industrie avec des machines programmées qui remplacent les hommes, supprime des emplois, et l'agriculture qui permet la prédiction des conditions météo, la sécurité avec la reconnaissance faciale, vocale et digitale, le commerce en visant les publicités par rapport à nos goûts. Saviez-vous que vous en faites une utilisation quotidienne ? Elle change complètement nos vies. Elle est partout, dans nos téléphones, nos voitures, nos ordinateurs. Nous pouvons citer par exemple Siri, l'assistante vocale d'Apple. Vous n'avez qu'à dire son nom et hop, il vous répond instantanément. Magique ! Il peut vous renseigner de la météo du jour, d'une date, d'un nom, d'une définition en quelques instants. Vous me direz, c'est plus rapide qu'un homme qui réfléchit. Ce n'est pas si faux. Il est dans vos poches à longueur de journée. Vous devez simplement ôter votre téléphone de votre poche et il apparaît. C'est si simple. Il en existe de nombreux autres, comme Google Home ou encore Alexa.
Malgré tout ça, il existe des inconvénients comme la notion de vie privée, la sécurité des données et l'impact sur les emplois. Son usage étant accessible à tous, toute personne peut effectuer tout ce dont elle a envie. L'utilisation peut vite devenir malsaine et nuire aux autres. Aujourd'hui, créer une fausse image de quelqu'un, recopier sa voix, est devenu si facile que tout le monde peut le faire. Des règles ont pour but d'assurer que l'IA est utilisée de manière responsable en respectant le bien-être et les droits de tous, mais il est difficile de contrôler en permanence l'usage de cette intelligence par chacun. Il faut également aborder l'aspect consommateur de ce système. Une seule recherche sur ChatGPT équivaut à allumer 14 ampoules LED pendant une heure. Le nombre de requêtes par jour sur ChatGPT est de 10 millions. Cela revient à allumer 140 millions d'ampoules chaque jour pendant une heure. En comparaison, une utilisation Google correspond à allumer une ampoule LED, sachant que Google accueille 39 milliards de personnes par jour, soit 39 milliards d'ampoules allumées par jour pendant 17 secondes. Ajoutez à ça que le nombre d'utilisateurs augmente de jour en jour. Et voilà, c'est tout pour nous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter Le Monde ou encore Futura Science.
Alors on passe au vote. Avez-vous vraiment écrit cette chronique ou un petit coup de pouce de ChatGPT à vous et tout ?
Tout à fait, nous avons écrit cette chronique tout seul.
Eh bien, on vous félicite.
Merci à l'ensemble des équipes sur le terrain, dans le studio et à la régie. Et merci à Pierre, Thibaut Bélanger et à Clotilde Aubert.
Et un petit clin d'œil à Barbara Gautin pour les quelques heures cédées pour enregistrer cette belle émission.
On espère que vous aurez appris 2-3 choses sur les intelligences et au moins vous aurez appris à dire merci en 12 langues différentes. Et comme dirait mon daron, vous vous endormirez moins bête ce soir.
Sommes-nous vraiment intelligents ? Une émission proposée par les élèves de première STAV du lycée Agricampus de Laval.